Bien, alors j'ai le plaisir de vous retrouver pour notre deuxième série de conférences cet après-midi. En raison de circonstances imprévues, la dernière conférence a dû être annulée. Nous aurons donc seulement trois conférences cet après-midi. Et j'ai donc le très grand plaisir d'annoncer la conférence de Damien Gadiot, que je remercie vraiment infiniment d'avoir accepté notre invitation. Damien Gadiot a une formation de biologiste, et après cette formation de biologiste, il a entrepris donc des études aux Beaux-Arts de Rouen, avant de s'installer à Paris et de faire un diplôme à l'École nationale supérieure des Beaux-Arts. Il a quitté la France, je crois, il y a à peu près une dizaine d'années pour s'installer à Berlin. Et l'œuvre de Damien Gadiot a été montrée lors de nombreuses expositions personnelles en France, à l'étranger, à New York, et aussi dans le cadre d'expositions dans la galerie Eva Hauber et Almin Resch à Paris. Manzoni Schaeper à Berlin, et M. Gadiot a aussi participé à de nombreuses expositions collectives importantes. Alors, je ne sais pas s'il faut le dire, Damien, mais vous collaborez aussi sporadiquement en tant que musicien à des vidéos d'amis artistes. Alors, ce matin, Anne Neukamp nous a parlé de l'efficacité de l'image, mais là, je crois que nous allons plutôt parler de l'aspect fantomatique de l'image, si je retiens bien le titre que Damien Gadiot a souhaité donner à sa conférence. J'ai donc le grand plaisir maintenant de lui laisser la parole.
Bonjour. Il est possible que seule cette introduction réponde vraiment à la question initiatrice de ce colloque. Je vais d'abord décrire brièvement ce qui constitue la plus grande partie de mon temps, à savoir être à l'atelier et peindre. Tendre une toile, préparer un panneau de bois, c'est comme ça que ça commence. C'est l'ingénierie ancestrale. C'est le respect de la science, des tenons et des mortaises, des dosages et des recettes. C'est le gesso, la colle de peau avec ou sans glycérine, le lin ou le coton, le ponçage, le séchage, la vérification. Quand on prépare le terrain de la peinture, il faut être attentif sans être trop solennel. Sinon, le support acquiert trop de valeur, alors qu'un tableau, ça se commence d'un air un peu détaché. Puis j'applique la peinture par couches maigres. Pour démarrer, je pose une ébauche. Projection, mise au carreau, dessin à la volée. Je commence par le travail sans me priver des atouts modernes. Je ne fais jamais rien de brave ou d'héroïque. Vient la première couche, toujours aussi maigre, est faite de peu de couleurs. L'image commence à apparaître. Mais la brèche n'est pas encore atteinte, même si les valeurs et la tonalité générale du tableau sont posées. Il faudra attendre la deuxième couche, où la couleur engraisse, pour savoir si le tableau tient, si le document d'origine, photographie devenant fantôme, existera en tant que tableau orphelin de sa source. La deuxième couche, donc, c'est le moment clé du tableau. C'est l'instant où la peinture est laide, mais naissante. La laideur est nécessaire, sinon le tableau n'avancerait pas, avec le risque que je me décourage face à elle. Pourtant, elle contient à la fois la possibilité d'un tableau achevé et d'autres perspectives, d'autres éventuels tableaux. C'est un instant d'une grande difficulté, puisque la matière est sale et l'enjeu important. Rater un tableau est une défaite vive et une blessure tenace. Et de l'autre côté du fil, il y a la promesse tranquille de la troisième couche. Le tableau est à finir, la peinture pure peut commencer, parce qu'on atteint enfin la surface. C'est un plaisir peu partageable que d'appliquer des gestes définitifs en ne pensant qu'à la peau du tableau, à la touche, aux transparences, aux reflets, aux textures et aux couleurs. Ce sont là des jours rares mais puissants, tendu entre la joie pure de la couleur et l'implosion douloureuse du jugement critique qui convoque continuellement des faits statistiques. La plupart des œuvres produites quotidiennement par les hommes sont médiocres et la chance d'en faire partie est élevée. Quelques remarques éparses à propos de la couleur. Je pose sur la palette les couleurs les plus belles que proposent les marchands et les salis systématiquement de noir lorsque je fais mes mélanges. Cela joue un rôle important dans mon travail puisqu'une palette unifiée me permet de plus facilement nouer entre eux les différents sujets abordés dans mes tableaux. La dissonance, les écarts entre les images est surtout iconographique, mais pas stylistique. À propos du support, je peignais sur toile, je peins sur bois et je découvre en ce moment une toile au grain très fin. La surface finale de mes tableaux est très lisse. et l'épaisseur de la couche picturale, jamais en matière. Un support lisse me permet d'éviter un phénomène d'ombre très local. Chaque passage d'un fil sur l'autre créant le grain. La lumière s'arrête et se répand en pointillé. Avec une surface lisse, la lumière fait son chemin et la couleur devient plus évidente. Je vais désormais m'attarder sur la partie de mon travail que je mène en amont de la réalisation d'un tableau, en essayant de montrer que chercher un sujet, c'est déjà peindre. Ma pratique technique de la peinture à l'huile étant assez classique et simple, je pense que la spécificité la plus remarquable de mon travail est dans le rapport que j'entretiens avec les images. Ce qui va suivre étant d'un sérieux assez prononcé, je voudrais quand même faire une dernière remarque à propos du plaisir. Je ne peux pas mener un tableau à bien si je n'ai pas de plaisir à le faire. Je décide de peindre telle ou telle image si je sens qu'il y aura un moment où je me délecterai de peindre un visage, un bout de tissu, un morceau de bois ou une montagne. C'est un plaisir de peinture pure qui n'a pas d'équivalent parmi les autres activités humaines. J'ai d'abord étudié la biologie. Je me suis mis à la peinture vers l'âge de 16 ans parce que mon meilleur ami d'alors était fan de Van Gogh, comme on est fan de quelque chose à cet âge-là. On publiait des poèmes dans le journal du lycée, on écrivait des chansons assez ratées. J'y prenais beaucoup de plaisir, mais lui, le week-end, il copiait des Van Gogh. Je vous épargne mes premiers pas et mon apprentissage sauvage, mais il se fait sans aucun repère. J'arrive aux Beaux-Arts, ne sachant pas grand-chose. La bibliothèque est pleine de peintres splendides, comme Bacon ou Baslitz, Richter me plaît. Il y a dans cette collection des artistes dont la masse bibliographique me fait penser que j'ai affaire à des maîtres. Bacon et Munch, ce sont mes premiers pas. Mais arrivé aux Beaux-Arts par le contraire du destin, je me familiarise avec les héros de ma véritable formation. Je suis fasciné par Richter, par sa peinture de manière générale, mais surtout par le fait qu'il n'y ait pas de cohérence a priori entre les différentes parties de son œuvre. Comment passe-t-on de cette figuration si directe et si simple à ces monochromes gris ? Comment peut-on inventer et développer plusieurs systèmes de peinture à la fois et avec autant de brio ? Je fais donc le tour des livres disponibles à son sujet pour comprendre ce qui se joue ici, et je découvre son atlas. Je vois bien de quoi est constitué le livre, mais je ne sais pas quel regard poser sur ces planches. De la guerre, de la pornographie, des photographies d'objets usuels, des portraits, de la banalité, des dessins d'exposition vite réalisés. J'avais désormais en mémoire cette collection dissonante, et ne sachant pas s'il s'agissait officiellement d'art, d'archives ou d'une autre forme encore inconnue à mes yeux, la bibliothèque n'étant pas si catégorique, j'ai fait ma formation avec cet atlas incohérent en tête, comme une forteresse. Pour le regardeur, le tableau est un objet singulier et rayonnant, et sa fabrication relève du secret, malgré l'évidence physique de la chose. Il est mystérieux jusqu'à sa surface, alors que pour les artistes, le tableau résonne depuis un endroit plus lointain. Avec l'atlas, Richter nous montre ses résonateurs. Il nous propose la matière originelle même de son œuvre, sans mise en scène. Rangées par thème, les images nous racontent ce que Richter extrait du monde, et surtout que les associer et les classer est déjà une représentation du monde. Je peins des images. Peindre, c'est faire des choix dans une séquence complexe, mais parfaitement articulée. Tous ces gestes, mélanger des couleurs, y adjoindre des médiums, poser la touche sur la toile en attaquant selon tel angle, selon telle pression, tous ces gestes, la peinture n'est faite que de choix denses et innombrables. Dans La barque silencieuse, Pascal Quignard dit « Dans l'homme, la seule chose qui pèse, c'est l'œil irrassasiable. » Peindre n'est pas uniquement cette activité insulaire de l'atelier. On y pense en permanence, même dans les rêves. On travaille en permanence, et regarder, c'est déjà peindre. L'œil est une machine animale qui se déplace selon une combinaison indéchiffrée de réflexes, d'intentions, de curiosités primitives et d'attention aux dangers vitaux. Peut-être est-ce cette part de l'œil qui gouverne lors du travail précédant le tableau. L'œil et le sexe sont lors du rêve deux organes totalement éveillés. Pourquoi des photographies ? Je suis venu à la peinture parce que j'avais des coups à porter. La violence était au centre de ma production et j'ai passé mes premières années à essayer de la canaliser. Utiliser une photographie comme document de départ, c'est la pièce maîtresse d'une collection de prothèses que j'ai mis en place depuis tout ce temps pour tenir cette violence à la bonne distance, pour la rendre acceptable, pour pouvoir l'envisager. C'est d'ailleurs ce qui m'intéresse dans le petit format, il se laisse envisager. La photographie, c'est donc un point de rencontre entre le monde et moi, un peu comme un pont sur lequel deux camps adverses s'échangent des otages. La peinture, c'est le médium, c'est ce qui met les protagonistes de cet échange en mouvement. Nous avançons aujourd'hui parmi des images d'une apparente familiarité. Elles nous en disent peu sur notre environnement, sont souvent trompeuses, puisque le temps qu'elles nous présentent est une abstraction. Le temps photographique n'a aucune réalité comparée au verbe et sa puissance évocatrice. C'est un temps composé de parcelles de durée entrelacées pour former un buisson dense. mais qui, curieusement, a un écho fort dans le tableau. Une peinture est un tas de gestes, et lorsque l'image surgit du tableau, c'est un moment fragile, où l'abstraction pure qu'en est la fabrication se retire de l'objet. Une peinture est un tas de gestes de la même manière que les photographies. La photographie est un amas de mémoires et de durées différentes. La puissance du passé se camoufle dans la trivialité, dans le dérisoire de l'image. C'est d'ailleurs ce qu'il y a de jouissif à les collectionner. Les images étant dérisoires, les regarder en cherchant le tableau à venir est une forme de voyeurisme professionnel qui confère à la banalité des scènes observées le potentiel d'un tableau extraordinaire. Car toute image est la promesse d'un tableau qu'on n'a pas encore réalisé. Cela veut dire essayer à nouveau d'atteindre un point que l'achèvement du tableau précédent a effacé. Finir un tableau, c'est perdre la candeur qui accompagne chaque commencement. Cette fois-ci, c'est la bonne. Et il n'y aura au final que satisfaction de contempler l'objet désiré, ou plutôt ce qu'il en reste, c'est-à-dire une ruine du désir de peinture. C'est ce désir qui agit lors de la compilation d'images. Comme je le laissais entendre, peindre commence à un instant indéterminé. Regarder des images, c'est déjà peindre. Ou peut-être, c'est l'intention de peindre quelque chose, je ne sais pas encore quoi, qui rend l'acte de peindre l'action cannibale du regard. Aucune idée ne préfigure mes recherches, et je ne suis jamais en quête d'une métaphore. Il y a un élan de la pensée au milieu d'un cimetière d'images, comme une traversée charognarde. Chercher des images est une prédation. Quand j'avais 6 ans, j'étais persuadé qu'au même instant, un enfant de 6 ans conduit à l'école pensait qu'un autre enfant avait exactement la même pensée. Il y a tellement d'images en circulation que nous n'y prêtons plus attention, afin d'être certains d'échapper à l'ivresse. Il y a un postulat de départ. Je trouverai dans les images qui me parviennent, à condition d'être prédateur, une forme qui contiendra intrinsèquement toutes les éventualités du tableau, une forme prête pour le transfert. Chaque image est un monde clos, qui implique donc son hors-champ, et cela est vertigineux, puisque toute banalité devient porteuse du plus fou, à savoir ce qui ne figure pas, donc ce qui peut à nouveau se déployer dans le temps. Toutes les conditions sont là, et il n'y a plus qu'à laisser advenir, qu'à se laisser dicter les tableaux. L'image recherchée, ou plutôt attendue, contient le potentiel d'un tableau, et cette part, tout autant que la peinture, se laisse difficilement résoudre dans le langage. C'est dans l'instant prégnant de l'apparition de l'image sous mes yeux que je sais si elle contient un tableau. Il me faut donc beaucoup d'images, et je dois, dans chacun de ces instants de quête, trouver un système pour filtrer le flux. Google Images est l'outil primitif, mais les algorithmes étant de plus en plus sophistiqués, les recherches s'unifient de jour en jour, et la part non négligeable d'erreurs, d'absurdités, et d'à côté dans les requêtes, a rendu l'outil assez vain. Recherchez la photo d'un avion et vous aurez un avion. Ne s'afficheront plus les images sans lien avec votre requête. Fini les tatouages, les cristaux, le pont du Gard ou des champignons qui apparaissent comme par magie, nous n'aurons plus que des avions, et éventuellement quelques chatons. Le cinéma est une de mes sources favorites. Aujourd'hui, on peut mettre des films en pause comme la photographie le fait de la vie en mouvement, c'est-à-dire qu'on aperçoit ce qui ne nous est pas forcément destiné. Le cinéma est un art de maîtrise. Chaque plan est le résultat d'une entreprise surprenante et souvent la somme de différentes interventions pragmatiques et professionnelles. Tout détail est intentionnel. Tout élément de décor répond à un ordre précis, à une commande claire, ce qui m'amène à considérer les photogrammes de films comme des collages. Je recadre systématiquement les images que j'en extrais parce qu'il y a un écho très fort entre chaque partie du décor et l'action principale. La lumière qui se pose sur un vase dans une pièce sombre lors d'une scène de crime ou de baiser. Tout est là pour nous indiquer un espace, nous faire croire en la véracité de la scène, tout en faisant preuve de discrétion. Ainsi, chaque détail est mis en scène en fonction du noyau de l'action et s'en fait l'écho bruyant. Je m'intéresse beaucoup à ces objets par ailleurs inventés, puisque jamais pensés tels quels, sans leur action principale. Parce que ce sont des objets paradoxaux, à la fois d'une banalité exagérée et pourtant pure fiction dans la fiction. L'étape suivante est souvent de rechercher des images semblables issues du monde réel. Les photographies d'amateurs sont riches en banalité, et je me laisse surprendre par la puissance évocatrice d'un bête intérieur d'appartement en termes de romanesque ou d'horreur. Faire cohabiter ces deux sources produit des frictions exploitables. La variété des images recherchées est à mettre en parallèle avec la façon dont je pense aux expositions. Souvent, dans un coq à l'âne apparent, je juxtapose des petits tableaux dont le sujet se laisse difficilement décrire. Par des jeux de recadrage, d'effacement volontaire du décor ou de superposition de différentes images, je m'efforce de vider la scène représentée de tout indice temporel ou géographique. De ce fait, les tableaux communiquent entre eux, sachant que leurs origines sont éloignées. La forme les rassemble alors que les sujets dissonnent entre eux. J'essaie de donner l'apparence d'une chronologie, d'un récit, dans une façon cinématographique de monter l'exposition pour donner l'illusion qu'un discours, qu'un commentaire sur l'ensemble est déjà disponible dans le dispositif de monstration. Il s'agit d'un des pièges que j'essaie de dresser, puisque justement c'est une peinture exempte de tout discours que je souhaite réaliser. Une peinture dont tout commentaire ne passerait pas la frontière du cadre, tournerait autour d'une énigme visuelle sans jamais rien en déflorer. Ce que je ressens dans ma fréquentation des musées, c'est ce que je recherche à tout prix. Aujourd'hui, seuls les maîtres anciens me donnent un désir d'art, puisqu'il a cette distance irrattrapable et peu compensable entre le jadis et la puissance subite et immédiate de la peinture. J'entends par là cette force présente qui absorbe sans distinction le futur proche et le passé proche. Quelle est cette puissance qui fait qu'on regarde un portrait comme on ne le fera jamais pour aucun visage humain? Sans avoir la réponse, je pense que s'extraire du langage comme on s'extrait du présent peut être une piste. C'est donc en pensant à l'hétérogénéité d'une série de tableaux à réaliser que je cherche des images, en rêvant à un grand ensemble, en essayant après chaque prélèvement dans ce grand tableau visuel qui nous accompagne, de mettre de côté des images qui, petit à petit, m'éloignent d'un discours, d'une éventuelle explication qui serait un commentaire sur le monde. Il y a donc une continuité forte entre ces instants qui précèdent le passage à l'acte et l'exposition, dernière étape du travail. Pour en dire un peu plus sur cette étape, je peux décrire mon état. Je ne mène pas une recherche active. Je laisse plutôt me parvenir ce qu'il y a de disponible autour de moi, en essayant d'influencer la qualité du flux d'images. De nombreux films, des lectures fortes, l'œil à l'affût. C'est la phase de collection. Puis vient un autre moment où j'imprime toutes ces images. Je les confronte au plan du papier. C'est un pas supplémentaire vers le tableau. Je fais varier leur taille, je les juxtapose, je les observe, les classe, les range, en élimine beaucoup, puis inverse les piles et les catégories. J'essaie d'entrevoir toutes les possibilités, et souhaitant fortement ne pas me tromper, parce que je sais que la peinture est dure. Le tableau est trop rare pour que chacune ait droit à l'essai. J'envisage les risques et les possibilités du passage à l'acte. Mais surtout, il y a toujours cette part étrangère dans chaque image, cette fraction qui échappe à toute notre entité, sauf à notre œil, qui agit comme un corps en soi. Il y a contenu dans l'image une injonction de peindre. Ces images, je les colle dans des cahiers, je me fabrique mes propres atlas. À l'atelier, il y a des livres, des monographies d'artistes et ces atlas. Je les range ensemble, pour être sûr d'avoir peur quand je choisis des images. Lorsque je les assemble sur des pages, le montage provisoire définitif qui en découle est à nouveau rempli de désordre et de chaos, puisque j'essaie de faire ce travail de collage en négligeant tous les jeux précédents. Avant de passer à la constitution de mes cahiers, je visionne chaque image ainsi sélectionnée en m'attardant sur un fait simple. Jusqu'où puis-je découper et recadrer l'image pour que l'intégralité de ce qui figurait soit intacte? Je recherche une limite. À partir de quand une image simple perd sa familiarité avec le monde? Je veux rester en deçà de cette limite pour qu'on ne se pose jamais la question de ce que c'est, pour que le tableau se laisse embrasser instantanément, décrire en quelques mots rapides et évidents, donc inefficaces. Pour compliquer la donne, je titre mes tableaux d'une façon a priori absurde, puisqu'ils n'apportent jamais un éclairage ou une solution, même si je sais exactement ce que je fais et à quoi ils se réfèrent. C'est une façon de crypter le tableau aux yeux de ceux qui cherchent à tout prix l'hypertexte. C'est aussi pour cela que j'utilise la peinture à l'huile, car ça va de soi. C'est le médium simple, évident de l'art. Mes formats sont généralement petits, le 24 cm par 30 ou 30 par 40 étant la moyenne de ma production. L'apparence anodine du tableau, la modestie du format, la banalité apparemment inoffensive du sujet, les couleurs volontairement éteintes, impures, ternes, d'un temps passé mais pas complètement, les mots que l'on attribue si facilement à ce qu'il y a à voir, la facture peu gestuelle, sans ferveur ni détresse, tout ça pour tenter de rendre ce qu'il y a de violent dans le sujet plus large, plus général de mon travail, simplement accessible. Je viens de vous décrire ce qui me permet chaque jour de mettre le pied à l'étrier. Jusqu'à maintenant, je pensais qu'il m'était possible de crypter par la peinture chacune des images que j'employais et que l'exposition rendrait mon sujet lisible au spectateur en offrant la clé de cet encodage. Il est important pour moi que je ne comprenne pas ni ne maîtrise ce que je fabrique exactement en termes de signification. En refusant le spectacle pictural, l'héroïsme du geste puissant, je souhaite aménager pour le spectateur une place accueillante dans mon travail, une alcôve, un creux, un silence qui permet au regardeur de mieux recevoir l'œuvre. Le tableau est un habitat quand il réussit. C'est un but simple, mais une entreprise délicate à mener à terme. Récemment, à l'occasion de ma dernière exposition à la galerie Eva Hauber, intitulée « La folie Hennequin », j'ai essayé de renégocier mon rapport aux images, en regardant plus attentivement du côté de la littérature. J'ai découvert l'œuvre de Pascal Quignard il y a 3 ans, et j'ai depuis un rapport curieux à la lecture en général. Elle m'est devenue difficile quand il s'agit d'autres auteurs. J'ai l'impression d'avoir, en quelques livres, appris une nouvelle langue, ni étrangère ni secrète. Une langue faite de la même matière que celle qui habite les tableaux, des maîtres anciens, et d'une présence construite pour les temps à venir, comme une terre fertile mais hantée, abandonnée. Je ne suis pas le seul à errer dans son dernier royaume, mais j'y suis comme dans une zone de transit, avant de trouver refuge dans celui qui me sera propre. J'ai donc essayé de donner au sujet de cette exposition une consistance plus simple et plus élastique. J'ai commencé à faire des ponts entre l'atelier et la puissance des images que Quignard convoque, qui n'ont rien à voir avec ce que peut l'imaginaire. Aujourd'hui, sous l'apparente totalité de ce qui est accessible, se cache une extrême pudeur. Il y a dans la pornographie générale appliquée au régime des images un conformisme pompier. Une violence codée nous est livrée sans aucune autre ambition que de générer de la servilité. Je ne ferai ici à aucun moment l'exégèse des textes de Quignard, je ne le pourrai pas, mais je voudrais tout de même tracer un chemin qui me mena de son œuvre à cette série de peintures. Le dernier royaume de Quignard est un essai qui ne refuse aucun chemin, aucune forme, et qui, de manière audacieuse, risque la langue même pour produire comme des irruptions stromboliennes d'images d'une résonance extrême. Il convoque de manière récurrente la figure du roi mourant et de son dernier geste. Détenteur du pouvoir total, le sujet laisse jaillir un passé d'un horizon infini pour nous laisser entrevoir à travers une brèche sexuée la puissance du jadis. Ces images appellent de la peinture avec une force que je n'avais jusque-là jamais envisagée. Le lit royal me semble être un lieu fascinant. C'est le terrain de collision violente entre une histoire intime et la construction de la destinée des royaumes. Des dauphins et des princesses s'y accouplent sous les yeux vérificateurs du parrain. Le lit vide, sorti de l'histoire en marche, devient mon sujet. C'est ce vide même qui contient le potentiel de la peinture. La décoration, la frontalité des motifs, la complexité des textures. Je les envisage comme des portraits, en pensant fiévreusement à toute la difficulté que me posera cette quantité de détails. C'est toujours vertigineux de se lancer dans une série ambitieuse sans savoir si on en a la capacité. J'ai commencé à faire des recherches sur les chambres royales, notamment celles des rois de France. Les images récoltées ne me satisfaisaient pas, soit trop peu soignées, soit trop officielles et pleines de copyright. Certaines sont extrêmement pittoresques. Entre Catherine de Médicis et Gabriel d'Estrées, il y a Louise de Lorraine, femme d'Henri III. À la mort de ce dernier, elle se fait appeler la Reine Blanche, car à partir de la mort de son époux, elle porte le deuil royal en blanc. Elle fait peindre sa chambre en noir, fait tapisser son lit de velours noir et fait recouvrir les murs du château de Chenonceau de tentures noires ornées de têtes de mort, de larmes d'argent et de plumes. Au plafond est sculpté le H d'Henri, entrelacé par deux lambda pour Louise de Lorraine. Un détail historique. Durant la Seconde Guerre mondiale, la ligne de démarcation passe au milieu du château. L'entrée est en zone occupée. La porte sud de la galerie donne accès à la zone libre. Ce que je cherche à peindre à ce moment, est une correspondance entre la puissance vitale et existentielle que les images de Quignard produisent en moi et la matérialité d'un temps passé. Le jadis est une présence d'une substance si vague et si immatérielle désormais que nous sommes détachés de la concrétude de l'histoire. L'état. J'emploie ce terme en pensant à Thomas Bernhardt et à la plainte de Reger, ennemi de la nostalgie, d'Heidegger et du soleil plus que tout dans les maîtres anciens. L'état, c'est l'école, le manuel d'histoire, le cours ennuyeux qui méthodologiquement nous adresse des images pures d'un récit national. La culture, dans ce cas, c'est l'art d'état. C'est la peinture en vignette définitive, en représentation calculée d'un message vertical et maîtrisé au service du commanditaire. Quignard, au long de la pensée et du texte, rétablit une vivacité des images intimes, nous faisant vivre un souffle, quelle qu'en soit l'odeur. Il réérotise l'image, électrifie mon regard sur la peinture ancienne. J'essaie alors d'orienter ma moisson vers des images qui ne sont plus des objets trouvés, porteurs de leur propre histoire. Je produis mes propres documents en sachant qu'un sens fort précédera l'image, délit que des fantômes historiques gardent tiède. Je me suis séparé de l'Atlas et de son chaos organisé. Et depuis ce moment-là, je ne laisse plus les images me parvenir et s'associer entre elles à mon insu. Mais j'essaie de programmer des séquences de travail plus étalées dans le temps. J'avais une idée très précise de ce à quoi ressemblerait la pièce centrale de l'exposition. D'ailleurs, je travaille depuis quelque temps à l'aide de maquettes, et ce quasi systématiquement, car ça me permet de réfléchir simplement, de déterminer des formats ainsi que des modes d'accrochage. En jouant avec des petites vignettes imprimées, j'ai vite su que je voudrais un espace vide et une série de 5 tableaux verticaux assez denses. Je me tourne vers le musée. Je fréquente à ce moment de moins en moins de lieux d'art actuels et visite essentiellement les musées historiques. J'y trouve le silence que je cherche et surtout l'embarras irrationnel d'être à ce point transpercé par la beauté. Rien ne va de soi dans le fait de contempler cette étrange image magique à laquelle il est si difficile de comprendre quelque chose, même au-delà des analyses iconographiques, au-delà de l'audioguide. Transpercé par la beauté, dont aujourd'hui tout le monde se fiche. Transpercé par le temps. Les period rooms m'excitent beaucoup par leur complexité temporelle. Reconstitution historique descriptive et inscription dans un ensemble temporel complexe s'imbriquent. Ainsi, je visite les musées au gré de mes déplacements personnels et professionnels avec un supplément de recherche. Le Rijksmuseum d'Amsterdam, le musée de l'armée aux Invalides, le Schloss Charlottenburg de Berlin, pour faire dans le local, ou le Metropolitan Museum de New York. Dans ce dernier, j'ai la surprise de constater que l'approche muséale est très différente en Europe. Ici, les tissus sont très, très présentables, car extrêmement restaurés. Et s'il y a une mise en scène, les papiers peints sont neufs d'époque. La plupart des matières se reconstituaient, alors qu'au Metropolitan Museum, tout est dans son jus. Jusqu'aux tentures murales passées, aux broderies des fauteuils très élimés et au sol marqueté, labouré par l'histoire. Je fais beaucoup de photos, toutes verticales car mon format final est déjà déterminé. Et travailler mon cadre au moment de la prise de vue, c'est un peu comme installer un chevalet. Il y a cet étirement du temps qui nous met en relation sympathique avec l'objet du désir. Et effectivement, lors du passage à l'acte pictural, il y aura très peu de retouches sur les images. Je voudrais maintenant revenir à la peinture même, puisqu'une fois le document en main, s'agit-il simplement de peindre une image en laissant le métier faire ? S'agit-il d'interpréter, de styliser, de déconstruire, de copier, de fermer les yeux sur la nature de l'image ? S'agit-il d'être dans un réalisme pur et scientifique, dans un réalisme photographique fidèle, dans un réalisme pictural impressionniste ? C'est en partie la peinture même qui y répond. Durant ma formation, l'école m'incitait très régulièrement à essayer autre chose que la peinture, que ce soit l'établissement ou bien les autres étudiants pour qui le médium était caduc. J'essayais de nombreux autres médias tout en restant attaché à une figuration quelle qu'elle soit. Même si, comme un boomerang, la peinture est toujours revenue, j'ai quand même eu maintes occasions de vérifier si un rapport aux images pures ne serait pas plus commode pour manier directement leur charge sémantique, ou plutôt pour les accommoder, comme je le fais aujourd'hui dans l'exposition, débarrasser des inconvénients si délicieux de la peinture. Il y a dans le passage de l'image à la peinture une métamorphose, une mise en chair qui lui est propre. D'une part, il y a les décisions conscientes, encore une fois le recadrage, les effacements des détails et des marqueurs temporels, le salissement des couleurs, le format, ainsi que chaque geste qui est une décision vigoureuse. Et d'autre part, il y a le travail de la peinture à mon insu, pourrais-je dire. Il y a ce qui en elle résiste au projet, à l'intention de l'artiste. Il y a une résistance de la peinture, une part insoluble dans le médium, un cristal magique contenu dans l'étrangeté du geste. Apposer des pigments agglutinés dans des graisses ne va pas de soi. Il y a d'abord la résistance au langage, à la pensée formulée, puisque peindre est, au moment même de l'acte, une opposition au langage, voire son exact contraire, sans grammaire ni solfège. Seul l'œil travaille, comme lorsque nous rêvons. Penser n'appartient pas au même temps que peindre. Ce sont deux états distincts, comme le gazeux et le visqueux. Il n'y a pas de continuité pure entre l'intention du geste et son exécution, mais il y a une approximation générale induite par une quantité démesurée de pression externe. Du corps au cosmos, le geste est corrompu par son milieu. Le geste de peindre, culturel, n'est jamais cosmologique. Autour du geste de peindre, rien n'est homogène. Peindre est une éternelle approximation du visuel, un accommodement car il y a la main. C'est une interprétation permanente et délicate, puisque le tableau se construit sur un désir désordonné du but à atteindre. L'image du tableau n'est pas le document photographique qu'on pétrit dans sa main au cours du travail, mais bel et bien cette rêvée du tableau. Ce futur proche aussi indéchiffrable que le vivant. Le tableau naît de ça, la main qui avance dans le brouillard, et un désir puissant mais bègue. Je suis toujours surpris de voir ce que je suis en train de peindre, de voir un visage naître, de voir une figure peinte devenir vive, de la voir se détacher de sa forme colorée et dessinée pour devenir une incarnation. À tel point surprenant que parfois, de l'imprécision et la maladresse du geste, surgit autre chose. D'un léger tremblement, d'un décalage, d'un accident, se présente une autre possibilité. Le plus simple des cas, c'est lorsqu'un coup de pinceau bien placé me fait penser que telle partie du tableau est subitement achevée. Ces moments créent un entrain particulier. Mais il y a surtout l'apparition d'une forme nouvelle, d'une autre possibilité qui vient modifier spontanément l'horizon programmé du tableau. Dans mon travail, ces moments sont rares et produisent un genre de tableau légèrement décalé de ma production habituelle. Je vous parlais précédemment d'une brèche. Quand le tableau bascule du mauvais côté, il est raté. Ma façon de travailler est aussi faite en fonction de ça. Je découvre vite si le potentiel de tableau contenu dans les images s'épuise ou tient. Et si le tableau a trop peu d'aplomb, je peux alors lui laisser une deuxième chance, en jetant le document et en devenant l'espace d'un instant un vrai peintre, qui se jette sans filet dans la matière. Je m'amuse avec elle, j'efface, je corrige grossièrement et je relance le tableau. Souvent, le raté est sans retour, mais parfois, il y a un plaisir immense à jouer avec le tableau, en quelques coups de brosse et de chiffon, à le relancer sur un tout autre cheval. C'est un plaisir lié à l'invention, qui jaillit de manière chaotique, et libéré de tout mon système de prothèses. Les tableaux qui vont suivre sont nés de cela. C'est pour cette raison que je commence beaucoup de tableaux à la fois, pour ne pas me retenir de rater si l'ennui marque trop vite sa présence. Par exemple, le portrait, ou plutôt ce qu'il en reste, d'un jeune homme sur fond bleu, est le résultat d'une telle quantité de ratage qu'on peut voir dans le fond texturé et coloré du tableau la matière des couches de recouvrement. À tel point issu de ratage que le visage n'est rien d'autre que l'emplacement effacé du visage. La tête est marquée par le contour des cheveux et un peu de couleur chair ici et là. Le visage apparaît par recomposition, mais on aperçoit un reste d'œil et de bouche, esquissé de manière assez grossière en bleu sur bleu, pour ajouter une couche d'absurdité, et aussi pour clore le tableau, devenu mascarade de portrait, et surtout ruine de peinture, avec tout le romantisme que cela induit. Ou cet autre tableau, qui semble penser de manière cohérente, est né de la collusion de deux images, Eva Braun se baignant sous une cascade, filmée par Leni Riefenstahl, et des mains s'amusant d'un liquide non newtonien placé sur un haut-parleur vibrant à basse fréquence. Ce dispositif a pour effet de créer une sorte de danse de petits stalagmites, et c'est cette partie de l'image que je n'arrivais pas à traduire en peinture. L'Atlas a fait le reste en proposant rapidement une solution à essayer, puisque les deux images, Eva Braun et les mains, étaient collées sur la même page. De la même manière, dans ce tableau, intitulé Bog, le portrait d'un vieil homme a fait son apparition parmi des babioles inidentifiables. Au départ, il y avait une image de ciel, de nuages bien cotonneux, mais assez menaçants, un ciel normand. La suite, c'est qu'ennuyé par le travail, j'ai laissé venir ce que le regard invente dans la forme évocatrice du nuage. C'est un jeu banal, que nous connaissons tous, mais qui trahit l'appétit de l'œil. Pour terminer, voici deux tableaux récents, mesurant chacun 1,90 m par 2,50 m. Il s'agit de deux peintures programmatiques, et je n'ai pas rencontré de problème pictural majeur en cours de réalisation. Donc, pas de virage à 90 degrés. En commençant ces tableaux, je ne savais pas comment j'allais m'y prendre pour peindre le cheveu ou le bois. D'ailleurs, le bois de cette sculpture est recouvert de fluides coagulés et de terre. Comment faire ça? Comment traduire en peinture ces textures si hétérogènes? Le problème s'énonce facilement, mais c'est uniquement la main à la patte que j'arrive à résoudre des équations de ce type. Puisque l'œil est beaucoup trop rapide pour la pensée. Il ne faut pas se dire qu'il faut plus de bleu de Prusse dans la terre de Sienne. Il faut le faire. Et se rendre compte que la peinture est aussi un ogre. Elle résiste parce qu'elle nous donne trop peu d'indices sur la conduite à adopter pour réussir à peindre ce bois. Et c'est seulement de parcelle en parcelle de couleurs que l'on se rend compte si le chemin est juste. Ainsi, je n'ai pas les mots pour décrire précisément ce qui, dans l'acte de peindre, travaille à mon insu. Mais c'est pourtant ce que je constate. La peinture est comme une machine organique. Encore une fois Quignard, la seule chose qui pèse, c'est l'œil irrassasiable. C'est conscient de cette action brute qu'a la peinture sur l'ensemble de mes choix que je regarde les images, par le filtre de cette connaissance. Que puis-je en peinture? Parfois, le confort est recherché, parce qu'il faut bien avancer, il faut bien produire, car la main a besoin d'exercice, et ce, même loin de tout type de virtuosité. Mais c'est en connaissant la limite technique et en sentant dans une image les détails qui viendront s'y cogner directement que le véritable travail commence. C'est le vertige de l'ignorance. C'est l'ivresse des problèmes à venir. Aussi figuratif que l'on soit, arrive un moment où il n'y a plus que la peinture. Ainsi, le tableau ne se laisse pas faire. Et il apparaît une fois contourné les intentions multiples. Le langage, la volonté, l'obtus, la ligne droite, l'horizon, le pouvoir, le contrôle, le programme. Tel un château, le tableau est bien gardé. Ce qui surprend, c'est la puissance du désir de tableau qui fait face à cette montagne de bonnes raisons de ne pas peindre. Hervé Guibert, dans l'image fantôme, voit les transformations de son visage comme celles d'un personnage de roman s'acheminant vers la mort, intime au point de devenir invisible. Les images sont aujourd'hui celles d'un album photo universel. Je vois la peinture comme seule épreuve positive des clichés en question. L'image efface la réalité, et c'est cet effacement que mime la peinture. Elle vient ainsi effacer l'image par punition et par crime. L'image fantôme. Je pense au tableau. Présence fantôme dans notre monde. On ne sait toujours pas ce qu'est ce moment si particulier de contempler le tableau, d'être devant cette surface qui nous dit si peu de choses tout en continuant de vibrer depuis Lascaux. Peindre, c'est se laisser transpercer par les époques. On produit un objet singulier, puis on disparaît.